C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h03, mercredi 8 juin. Bonne journée, bienvenue au 98.5 avec un ciel qui demeure nuageux. On a eu quand même de la pluie hier soir, un peu aussi durant la nuit. Donc de bonnes averses avec aujourd'hui un maximum de 22. L'humidex est à 25 et on a des vents aussi autour de 40 km/h. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, minimum de 15. Demain, c'est vraiment une journée de pluie. C'est du temps nuageux, des averses le matin. Et au total, là, c'est 25 mm de pluie qui est prévu dans la journée, avec un maximum de 19. Et puis vendredi, on prévoyait du soleil. Malheureusement, c'est devenu une prévision un peu plus grise, du temps couvert, possiblement un peu de pluie encore, avec un maximum de 20 degrés. Par contre, pour l'instant, les prévisions week-end laissent entrevoir deux journées assez agréables. Dans les deux cas, 24 degrés. Et c'est du soleil pour samedi, soleil-nuage pour dimanche. Commençons ce matin par, j'appelle ça la grosse chicane de famille au Parti québécois. Et hier, il y a certains éléments qui se sont ajoutés. D'abord, notre ami Bernard Drainville, qui a officialisé sa candidature pour la coalition Avenir Québec. J'ai écouté le point de presse, discours qui était quand même assez prévisible en disant « Les faits sont clairs, les gens ne veulent pas entendre parler de souveraineté et je suis nationaliste. » Et je pense qu'il y a moyen d'aller chercher davantage, dans le cadre actuel, pour améliorer la situation des Québécois. Donc, je reprends du service public pour servir. C'est essentiellement ce qu'il vient nous dire. Et là, c'est sûr qu'on le questionne, parce qu'on se dit, il a été candidat à la direction du Parti québécois, un parti indépendantiste. Il a fait des discours enflammés pour faire avancer l'idée de souveraineté. Et donc, c'est quelqu'un qui, profondément, a défendu, a fait la promotion de la cause souverainiste au Québec. Je peux très bien comprendre, puis on va lui parler tantôt, là, ce constat, une analyse qui, évidemment, ne fait pas l'affaire de bien des gens au Parti québécois, mais qui, malheureusement, est le constat de la réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que l'idée de souveraineté, c'est pas tendance. C'est vrai que le projet d'un pays n'intéresse pas un nombre, disons, substantiel de Québécois, assez pour permettre au PQ, par exemple, d'espérer faire mieux que ce que les sondages démontrent actuellement. Ça, c'est comme une lecture claire de ce que les Québécois ont comme priorité. Là où j'ai plus de difficultés, puis je suis pas naïf, là, je comprends aussi pourquoi. Puis hier, Bernard prenait l'exemple de Al Pacino dans Le Parrain 3. Tu sais, le mafieux qui veut se réhabiliter, qui veut plus qu'on lui parle du passé, qui a blanchi toutes ses opérations, qui est honoré par l'Église, et qui dit, je ne suis plus dans cet environnement. Et un peu de l'allusion, je ne suis plus là un souverainiste, là. Ou en tout cas, je ne peux pas vous le dire. Parce que la CAQ ne veut pas se faire taxer de recruter des indépendantistes. On va chercher des nationalistes, des gens qui ont vu la lumière et qui savent que cette troisième voie, c'est celle de l'avenir. Et que les Québécois ne veulent pas entendre parler d'un pays. Alors, on sait pourquoi ils n'osent plus prononcer le mot. Mais en même temps, je trouve ça un peu plate. Et pour avoir côtoyé Bernard pendant toutes ces années, il me semble que c'est possible à un candidat de dire, écoutez, moi, je demeure un souverainiste, indépendantiste. Je ne peux pas avoir fait ces discours-là puis vous expliquer aujourd'hui que, ben, comme ce n'est pas tendance, comme ce n'est pas la saveur du mois, ben là, je suis rendu autre chose. Je pense que tu peux l'affirmer puis dire, écoutez, peut-être un jour, puis peut-être un jour, je vais travailler là-dessus, mais pour l'instant, je reviens en politique parce que je pense qu'il y a des choses à faire. C'est mon humble point de vue. Et entre-temps, dans la famille péquiste, là, évidemment, il y a eu toutes sortes de réactions hier. On a parlé des opportunistes comme Caroline Saint-Hilaire et Bernard. Bernard à la solde de la CAQ pendant qu'il faisait de la radio. Et aussi, les festivités qui entourent le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque. Et donc, l'année Lévesque, présidée par Lucien Bouchard, qui, la semaine dernière, disait que le PQ n'a peut-être pas nécessairement le meilleur véhicule pour la souveraineté, que c'est une idée qui... Il faisait le constat que je partageais avec vous tantôt, que la souveraineté, ben, c'est pas à l'agenda des Québécois, ça ne les intéresse pas vraiment. Et que, alors, tu sais, et que peut-être que le PQ va finir par disparaître. Et là, vous avez vu cette levée de bouclier dont la sœur de René Lévesque, Alice, qui a écrit une longue lettre, je vous parlais de ça hier, témoignant à la fois de son affection pour son frère, pour ce qu'il a fait, et non seulement la création du PQ, mais des mesures au Québec social-démocrate. Et elle attaque Lucien Bouchard en disant qu'il n'avait pas le droit de dire ça, alors qu'il préside le fameux comité. M. Bouchard s'est excusé dans une lettre. Il dit, et je cite, qu'il n'escompte pas la disparition du Parti québécois. Il s'est dit attristé que Mme Lévesque soit en colère. J'ai réitéré que l'indépendance est une nécessité politique, que le rêve est là. Et transmet donc ses salutations et son respect à Alice Lévesque. Entre-temps, dans le Devoir ce matin, Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois, qui a aussi été collaborateur de Lucien Bouchard, nous parle de Lucien Bouchard comme étant l'anti-péquiste. Et là, il donne une série d'exemples où M. Bouchard, alors qu'il aurait pu aider des chefs, qui aurait pu faire la promotion de la souveraineté, a décidé de ne pas lever le petit doigt. Et là, les exemples sont nombreux. Après avoir porté la cause, en 1995, lors du référendum, presque au fil d'arrivée. Et les exemples sont nombreux, à la fois quand Bernard Landry était chef, quand Mme Marois est devenue chef. Donc, vous lirez ça ce matin. Puis, il semble également que lors du lancement des événements qui entourent l'année Lévesque, François Legault va prendre la parole, Lucien Bouchard, évidemment, va prendre la parole, mais que le chef actuel du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, n'a pas été invité à parler. C'est quand même assez étonnant. Et Lisée dit dans son papier ce matin que pour Lucien Bouchard, le PQ, le parti politique, ça a toujours été comme une espèce de... Puis il y a certains souvenirs, il a été hué par quelques militants. Il pense à même créer un autre parti politique. Le vote confiance à 76%, pour lui, c'était une insulte. Donc, un anti-PQ. René Lévesque avait des problèmes aussi, pas un peu avec son parti. Ça n'a jamais été simple. Mais là, ce matin, je vais vous dire une chose, là, les chicanes de famille qui sont sur la place publique de façon assez solide. Très bien, on va parler de la guerre en Ukraine. D'abord, le président Zelensky qui parle de villes mortes, des villes qui ont été bombardées, des villes où les citoyens ont levé les feutres, évidemment, parce qu'ils avaient peur, et qu'il y a comme une espèce de redéploiement des forces. Les Russes, qui sont aussi affaiblis, qui sont aussi écorchés par cette guerre, décident de se concentrer principalement dans certaines villes, notamment dans la grande région du Donbass. Alors, on est très loin de l'objectif initial de la guerre, qui était de faire tomber le régime, faire tomber la capitale. Et on voit aussi les Ukrainiens qui se réorganisent, tentant de sauver les acquis dans le sud. Mais ça demeure, évidemment, en termes de guerre, une guerre qui s'effiloche, qui s'étire. Entre 60 et 100 soldats sont tués chaque jour, 500 sont blessés. C'est le président Zelensky qui l'affirme. Depuis le début de cette invasion, de cette guerre en février, il y a près de 7000 Ukrainiens qui auraient été capturés, donc des militaires ou des gens faisant partie d'une certaine milice, si on veut. Et que depuis le début, il y a au moins 40 000 personnes qui ont été tuées ou blessées. C'est le ministère de l'Intérieur de l'Ukraine qui donne ces chiffres. Alors, c'est un portrait qui montre qu'on entre dans une phase aussi, je dirais pas d'essoufflement, mais je voyais ce matin qu'il y a certaines stratégies du président Zelensky qui sont contestées. Le moral des troupes aussi qui est affecté. C'est depuis le mois de février que ça dure. Puis je pense qu'on peut comprendre un peu cette espèce d'épuisement moral. Puis entre-temps, vous avez beaucoup de réfugiés ukrainiens qui arrivent, entre autres au Canada, dans certaines autres provinces. Revenons sur la violence. Il y aura le rapport aujourd'hui du SPVM. Donc, on connaît déjà les grandes lignes, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de crimes contre la personne augmentation du nombre de fusillades. Mais il y a ce matin Radio-Canada qui a obtenu des documents, notamment colligés par la GRC, des rapports de 2020, 2021 et depuis le début de l'année, par l'équipe nationale de soutien à l'application de la loi sur les armes à feu. Et ce que ça montre, c'est qu'on vit à Montréal ce qui s'est passé à Toronto puis qui continue de se produire là, il y a peut-être 10-15 ans, quand on parlait de ces événements violents, de ces coups de feu, de ces guerres de gangs, de territoires. Donc, parmi les 215 événements de 2020 à 2022 où les policiers ont trouvé des douilles, dans 15 % des cas, c'était plus d'une dizaine de douilles. Et là, il y a de plus en plus d'événements où le nombre de coups de feu est élevé. Il y en avait eu 11 cas avec plus de 10 douilles en 2020. Ça a doublé en 2021. Puis on est à la moitié de l'année, puis on est déjà à 9 cas. Pas de surprise, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, on a le plus d'événements avec coups de feu. Mais on en retrouve aussi dans d'autres arrondissements. Et quand vous regardez les chiffres toujours, ce qu'on constate, c'est qu'en 2020, dans 4 quartiers, Île-des-Sœurs, Lachine, Hochelaga-Maisonneuve et Le Plateau, on n'avait pas d'événements avec armes à feu. En 2021, tous les postes de quartier à Montréal avaient au moins un événement. Puis en 2022, pratiquement tous les secteurs en ont déjà connu un depuis le début de l'année. Les quartiers à l'est et au nord, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard et Saint-Michel, comptent une vingtaine d'événements chacun en 2021. Alors, on a ces chiffres qui démontrent quoi? Que oui, puis là, ça inclut la Pointe-Saint-Charles, ça inclut l'ensemble, on l'a vu, la Chine. Ça démontre qu'il y a une augmentation de l'utilisation d'armes à feu. Puis je le dis, depuis le début, c'est non seulement des armes qui circulent sur le marché noir, qui sont achetées à fort prix, mais qui sont utilisées n'importe comment, par n'importe qui, à n'importe quelle heure du jour, puis pour n'importe quelle raison. Pour des guerres de territoire, pour des frustrations, pour des images sur le web qui déplaisent, par, je dirais souvent, ça part avec des picadilles, puis d'autres fois, c'est tiré pour intimider, pour passer un message. Sauf que là, les gens commencent à être inquiets. Et beaucoup d'experts soulignent que c'est non seulement le nombre de fusillades, mais cette espèce de, comment dirais-je, de climat que ça génère, puis l'anxiété. Puis on parlait des chiffres cette semaine du Journal de Montréal, plus d'appels de gens qui entendent plus de coups de feu, et ça les inquiète. Entre-temps, la Ville nous sort la même cassette, qui est de dire « Montréal est sécuritaire ». Ben oui, Montréal est sécuritaire, mais un peu moins qu'avant. Et c'est pas de faire peur au monde, c'est pas de dire aux gens « ne sortez pas », c'est de dire qu'on a un problème majeur à Montréal concernant la circulation et l'utilisation de ces armes à feu. Je veux revenir sur le rapport des coronaires concernant la mort de 619 personnes pendant une vague de chaleur l'an dernier en Colombie-Britannique. C'est intéressant parce que ce que ça montre, c'est que, d'abord, les victimes, les gens qui sont décédés pendant la vague de chaleur, là, vous comprendrez principalement des gens qui étaient malades, des gens qui sont âgés. 80 % avaient au moins 3 maladies chroniques. 67 % avaient 70 ans et plus. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que ces gens-là, dans beaucoup de cas, sont décédés, une majorité, là, 56 % parce qu'ils étaient seuls, vivaient seuls. Donc, personne. Puis beaucoup d'entre eux ont été découverts alors qu'ils étaient morts depuis déjà un certain nombre de jours. Ce qui amène donc comme recommandation, on l'a vu avec l'alerte chaleur en deux temps qui a été annoncée cette semaine, là, l'importance d'avoir des protocoles. Et plus on va parler de changement climatique, plus on va parler d'événements extrêmes, plus on va devoir s'ajuster, s'adapter à cette réalité. Et c'est ce que veut faire la Colombie-Britannique à compter de cet été. Si on prévoit une vague de chaleur, si on se rend compte qu'on a des températures élevées au-delà des feux de forêt, comment on fait pour aider la population qui est âgée, malade, qui vit seule dans des apparts où souvent il n'y a même pas d'air climatisé? Vous avez aussi un rapport ce matin qui va être rendu public, c'est dans la presse, sur les changements climatiques. Et le constat est un peu toujours le même, c'est-à-dire que les mesures annoncées ne donneront pas les résultats prévus et que ce plan intitulé « Plan pour la carboneutralité au Québec, trajectoire 2050 », qu'on devrait, par exemple, réduire l'auto solo, ça veut dire plus de taxes, puis taxer la pollution. Donc, y aller de moyens coercitifs et pas juste les moyens qu'on a actuellement pour essayer d'augmenter le parc de voitures électriques, alors que si vous avez commandé un véhicule, vous l'attendez depuis des mois, puis ça prend une éternité. Dans la presse aussi, ce matin, dans la région de Valleyfield, des entrepreneurs qui continuent d'utiliser des pesticides de synthèse, alors que c'est interdit depuis 11 ans. Et là où c'est particulier, c'est que même si les municipalités tentent de faire respecter les règlements, ça a l'air qu'il y a des délinquants, des entreprises qui continuent quand même d'utiliser les produits pour le gazon, pour lutter contre les araignées. Et ils s'engagent pourtant à ne pas s'en servir. Et là, il y a des contrôles surprises qu'on doit faire. Puis quand on fait les contrôles, on s'aperçoit qu'il y a encore donc, de ces produits-là qui sont malheureusement utilisés. La crise sanitaire a coûté 15 milliards de dollars au réseau de la santé en 2 ans. Il y a eu beaucoup de contrats de gré à gré. Il faut se rappeler le contexte aussi. Là, la planète courait après des masques et différents équipements de protection. Et puisque je vous parle du réseau de la santé, si je vous dis urgence qui déborde, pénurie de personnel, trop de patients qui passent trop de temps sur des civières qui ne sont pas hospitalisées parce qu'on manque de lits, donc des urgences qui surchauffent, personnel désabusé, des retraites anticipées, des départs vers le privé, également des gens qui ne veulent pas venir travailler dans un hôpital. Qu'est-ce que je décris, vous pensez? Le système québécois? Non. Je vous décris la crise qui secoue le système français. Et on va parler avec un médecin français. C'est exactement là, c'est presque du copier-coller. Un médecin qui dit dans le journal Le Monde, puis avec les expressions le consacrées en France, là, en gros, les médecins de famille, il y en a pas assez, beaucoup sont partis, et ça crée une pression sur les urgences. Puis on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez de personnel, puis les gens n'ont pas envie de venir travailler là, puis ils sont fatigués. C'est une crise, c'est la crise de l'urgence, c'est la porte d'entrée de l'hôpital, mais ça témoigne d'une crise généralisée et d'une catastrophe annoncée, puis eux aussi parlent de gens qui, malheureusement, vont perdre la vie parce qu'ils ne seront pas soignés à temps. Je lisais ça ce matin, puis ça fait quelques jours, là, dans le Nouvel Observateur, il y avait également ce même type de constat. Tu lis sur ce qui se passe en France et tu t'aperçois que c'est grosso modo la même situation qu'ici dans le réseau de la santé. Et puis, on va parler de gaspillage alimentaire, ce sondage. Alors que les prix augmentent, là, les gens ils veulent éviter d'en perdre, là, tu sais, l'espèce de plat que tu as oublié dans le frigo ou encore que tu as laissé traîner sur le comptoir et que c'est plus bon. 51% des Québécois qui disent malheureusement gaspiller. Puis même si on essaie de se convaincre puis d'avoir des pratiques, dans les faits, c'est encore une fois. Mais avec les prix élevés, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça encore plus, disons, exigeant, là, mais qui vont essayer, par exemple, et je lisais aussi ce matin dans la presse, des gens qui se tournent vers les marques maison, tu sais. On a nos marques, tu dis, moi, ma mayonnaise, c'est celle-là, puis mon ketchup, c'est ça. Est-ce que, compte tenu des prix, tu dis, ben, du ketchup, c'est du ketchup, puis l'exemple qu'on donne, le fameux ketchup Heinz, on va me contenter de l'autre, puis ça sera pas plus grave que ça. Alors voilà pour notre revue de presse de ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Alors, notre ancien collègue Bernard Drainville est officiellement candidat pour la CAQ dans Lévis. L'annonce est faite hier en présence du premier ministre François Legault. Il est avec nous ce matin. Bernard, bonjour.
Bonjour, Paul.
Comment ça s'est passé hier? C'est quoi ton évaluation si tu avais chroniqué là-dessus ce matin?
Je dirais qu'il a passé l'épreuve du feu. Il a passé l'épreuve du feu, honorablement.
OK.
Mais ça n'a pas été facile pour autant, là. Mais c'est ça. Honnêtement, là, je sais pas trop, Paul. Je pense qu'on va faire un effort pour se vouvoyer. Hein, je vais t'appeler Paul, mais je vais essayer de te vouvoyer, même si le tutoiement risque de revenir au grand galop.
C'est pas grave.
Alors, Paul, je pense que ça a été correct.
Okay.
Ça a pas été, honnêtement, ça a été pas mal ce à quoi je m'attendais, là. C'est pas mal ça. Ouais.
Une question qui t'a été posée hier, là, puis je pense que c'est important. Est-ce qu'on t'interdit de dire que tu es souverainiste?
Non.
Pourquoi tu le dis pas?
Ben parce que je suis là pour faire suivre une ligne nationaliste. Je suis là parce que j'adhère à un parti nationaliste. Puis j'ai pas le goût, Paul. À partir du moment, tu comprends, où tu adhères à un parti nationaliste, c'est que tu veux laisser justement le vieux débat fédéraliste souverainiste derrière toi. Écoute, honnêtement, je l'ai dit hier, là, puis déjà à la fin de mes années au PQ, je disais, pendant la course au leadership, je disais aux péquistes, écoutez, il faut prendre l'engagement de ne pas tenir de référendum dans un premier mandat parce que les appuis à la souveraineté sont à la baisse, donc...
Ça, je te suis là-dedans. C'est,
okay?
C'est-à-dire que de dire, j'en ferai pas un engagement, je veux pas...
Ouais.
Mais je veux faire entendre aux auditeurs ce discours qui a marqué beaucoup de gens. 11 mai 2012, Assemblée nationale, où tu parles de souveraineté. On écoute
ça. Si on faisait l'indépendance, M. le Président, on paierait pour un État au lieu de payer pour deux États. On paierait pour une bureaucratie au lieu de payer pour deux bureaucraties. Si on était indépendant, on mettrait fin au chevauchement. On sauverait de l'argent. On serait mieux géré. On ne serait pas obligé de se battre pour maintenir le registre des armes à feu. On aurait un registre des armes à feu au Québec. On n'aurait pas eu besoin de dépenser de l'argent pour essayer de préserver les données. Puis on serait capable de cette façon-là d'être fidèle à la mémoire de nos 14 de poli. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on n'aurait pas besoin de se battre pour avoir des juges francophones. On n'aurait pas besoin de se battre pour avoir un vérificateur général.
Et je pourrais continuer longtemps. Dis-moi que le timing n'est pas bon. Tu ne peux pas avoir changé d'avis à ce point-là.
Oui, mais on est ailleurs, Paul. On est ailleurs.
Mais pourquoi les ministres fédéralistes ont le droit de dire qu'ils sont fédéralistes à la CAQ, puis un ministre ou un futur ministre souverainiste ne peut pas le dire?
Oui, mais en général, ils rappellent aussi ou ils ajoutent qu'ils sont nationalistes. Là. Puis, tu sais, moi, je regarde l'article 1 de la CAQ.
Tu peux être nationaliste, souverainiste, nationaliste, fédéraliste.
Oui. Ben moi, je suis nationaliste, là. Je l'ai toujours été. Puis là, ben je m'en viens dans un parti nationaliste et puis je vais. Je vais mener des combats à l'intérieur du Canada, là, puis on va tout faire pour les gagner. Tu sais, l'article 1 de la CAQ, là, c'est la Coalition du Québec est un parti nationaliste moderne dont l'objectif premier est d'assurer le développement et la prospérité de la nation québécoise à l'intérieur du Canada, défendant avec fierté l'autonomie, la langue, les valeurs, la culture. J'adhère à ça.
Parfait. Penses-tu qu'il y a des souverainistes à la CAQ?
Ça se peut.
Ben ça se peut, il y en a certains. S'ils sont peu au PQ, là, ils sont rendus quelque part.
Ça se peut, mais honnêtement, je n'ai pas cette discussion-là. Puis je veux pas l'avoir. Je suis très à l'aise avec la décision que je prends. Je pense que la vaste majorité des Québécois sont rendus là. Je pense qu'ils ne veulent pas retourner dans le vieux débat fédéraliste-souverainiste. Il y a une troisième voie qui rallie beaucoup, beaucoup de Québécois. Des Québécois, d'ailleurs, qui, dans certains cas, étaient des adversaires auparavant, puis qui, maintenant, sont devenus des collègues. Puis là, ils travaillent tout le monde ensemble pour essayer de faire avancer le Québec, puis pour essayer de régler des problèmes d'une manière très pragmatique.
Mais sur le fond de la question, tu peux pas avoir changé d'idée.
Paul, je suis nationaliste. C'est la raison première pour laquelle j'étais au PQ. Je suis d'abord et avant tout nationaliste et je continue de l'être. Et c'est le positionnement que je prends, ce sont les convictions que j'ai et je reste fidèle à ça.
Le Bernard Drainville, intervieweur, te partira après, là. Tu le sais, là, en disant « c'est la langue de bois », il me répond pas.
Paul, tu peux me partir après.
Non, mais...
tu peux me partir après.
Mais tu sais, non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est difficile à croire. Tu sais, j'ai des témoignages...
C'est pas mon combat, Paul, ce n'est pas mon combat.
C'est pas le temps de faire le combat.
Ce n'est pas mon combat, puis ce n'est pas ma motivation pour revenir. C'est pas compliqué.
Correct. Deuxième sujet. Ta motivation pour revenir.
Oui.
C'est quoi exactement, en une phrase, là, pourquoi tu reviens? T'avais des bons résultats. D'ailleurs, c'est la journée de publication des sondages radio. Tu venais de renouveler ton contrat. Pourquoi tu décides de retourner en politique, surtout en sachant ce que c'est?
Deux mots pour contribuer. Tu sais, j'ai eu, entre l'appel de Martin Koskinen le samedi, puis la rencontre avec le PM le mercredi suivant, puis ma décision à Pierre Martineau le jeudi, j'ai eu 5 jours, là. Bon. Puis ça m'a obligé, là, puis là, je vous allez trouver que c'est des mots ronflants, là, puis je regarde que c'est comme ça. Tu étais obligé à un moment donné de te regarder puis de dire, tu sais, moi, je viens d'avoir 59 ans. J'ai eu 59 ans il y a deux jours. Ça t'oblige à te poser la question, il me reste encore quelques bonnes années, là, professionnellement, là, je veux faire quoi avec ces années-là? Et j'avais le choix entre continuer à avoir du fun à la radio, puis maudit que j'en avais. J'étais très heureux, puis les chiffres, tu as raison de le dire, sont bons, ils vont sortir aujourd'hui, ils sont très bons. Puis je venais de signer mon contrat, puis je venais de signer mon bail, tu sais.
Mm.
Puis là, j'ai cette proposition-là de dire, OK, ça te tente-tu de revenir? Et puis là, tu te poses la question, de quoi je suis le plus fier? Professionnellement, de quoi je suis le plus fier? Et j'en suis venu à la réponse que ce dont je suis le plus fier, c'est les lois que j'ai fait voter et le débat que j'ai mené, pas facile, sur la laïcité. C'est de ça dont je suis le plus fier, Paul. Et donc, le PM t'offre la chance d'en faire encore, puis de continuer, peut-être d'ajouter une couple de réalisations, de régler une couple de problèmes, okay. Peut-être, tu comprends?
Ouais.
Et donc, tu dis, bon, ben il me reste encore quelques années, je vais les prendre, puis je vais les investir pour ma société.
OK. J'ai deux ou trois questions. La première, est-ce que tu veux toucher à des dossiers d'immigration, d'identité, ou pour toi, là, ça, c'est le passé, c'est la charte. Je veux être associé, parce que tu m'as parlé souvent à l'antenne, de dossiers économiques, de développement de ressources naturelles. Là, on est dans deux univers. Est-ce que tu veux pas, puis est-ce que tu as dit à Legault, venez pas me donner le dossier de la loi 101, de la charte, de l'identité, je veux pas toucher à ça.
T'es embêtant, hein, toi.
Parce que j'ai
pas dit à Legault, là. Non.
Mais mettons qu'il écoute pas, là, tu dirais-tu, je veux pas toucher à ça, moi, là?
Tu sais que tu sais très bien, Paul, comment ça marche. Si jamais je suis élu dans Lévis, ce qui n'est pas fait, mais mettons, si jamais la CAQ est réélue, on verra. Mettons, on jase. S'il m'appelle puis il me dit, t'as-tu des préférences, mettons? Mettons qu'il me pose cette question-là, ce qui n'arrivera pas, mais en tout cas, on jase.
Mm-hmm.
On ne devrait jamais faire ça, là. Ça, c'est le genre d'affaires que je ne suis pas supposé faire, là, mais...
Mais
honnêtement, je vais répondre à ta question, ça me tente pas de retourner dans ces débats-là. Ça me tente pas de retourner dans ces dossiers-là. Mais si le PM me dit j'ai besoin de toi à l'immigration, ben je vais y aller à l'immigration.
OK, mais idéalement, tu veux pas toucher à ces questions-là.
Je trouve que j'ai donné.
OK. Est-ce que tu penses que la charte, avec le recul, ça a contribué à la défaite du Parti québécois?
Absolument pas. Ce qui a contribué à la défaite du Parti québécois, c'est la question du référendum puis de la souveraineté, justement, parce que l'élection s'est repolarisée là-dessus. Et l'une des raisons, sinon la raison principale pour laquelle j'ai proposé dans la course au leadership de 2014 de mettre de côté le référendum dans un premier mandat, c'est que je tirais justement les leçons de l'élection. On avait perdu à cause de ça. Paul, penses-tu que la laïcité a nuit à la CAQ, toi? Pantoute. La première raison pour laquelle la CAQ, le ciment a collé avec les Québécois, c'est qu'ils ont réglé la question de la laïcité dans la première année. Alors, c'est ça la réalité.
Okay.
La charte était très populaire, puis la loi 21 est également très populaire. Alors, c'est un mythe, ça. C'est un mythe qui a été inventé par les adversaires de la charte, mais je persiste et signe.
OK. Ta candidature est annoncée dans la même semaine où M. Legault brandit le spectre de la Louisiane, se porte encore plus à la défense du français, parle d'anecdotes quand il voit des allophones parler français. Autrement dit, on a senti cette semaine-là, appelons ça une semaine marquée par toute la question de l'identité. Puis on a vu le débat que ça a fait, là, les réactions... Et là, la cerise sur le sundae, le ministre de la Charte qui débarque à la CAQ. Tu comprends? Là, on s'est dit, c'est un plan de match, là. C'est pour faire la une de Gazette. C'est pour faire peur aux anglophones. Je ramène Bernard Drainville en politique. Ça termine cette semaine-là. C'est une coïncidence?
Ben, je pense que oui, là. Il pouvait pas savoir que j'allais répondre oui à sa question, là. Il pouvait pas savoir que j'allais.
Mais c'est cette semaine-là qui t'a appelé.
Ben oui, mais là, il voulait me laisser... Ce que j'ai compris, c'est qu'ils m'ont appelé là parce qu'ils voulaient me laisser finir ma saison. Puis là, ben moi, j'ai dit à Koskinen, moi, je rencontre pas Legault avant le 17, là, avant le vendredi 17 juin, qui était ma fin de saison. Puis quand j'ai expliqué ça à nos patrons, Pierre Martineau m'a dit, Bernard, c'est trop tard. Là. Nous autres, on peut pas attendre 3 semaines. Là. Fait que va chercher une réponse plus tôt. Ou enfin, va rencontrer Legault plus tôt, puis donne-nous ta réponse. On veut te revoir. On veut dire, on vient de te re-signer 3 ans. On veut te garder. Mais toi, tu as besoin de nous dire ce que tu veux faire. Et puis je sais, il est arrivé ce qui est arrivé. Alors moi, je m'insère dans un contexte d'actualité, puis j'ai pas de contrôle là-dessus. Okay.
L'autre question, oui. Tu nous as expliqué pourquoi tu faisais ce retour, donc le goût de servir, le goût de faire avancer des dossiers. Je suis convaincu de ça.
Bon, oui. Merci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont...
Non, mais je sais...
Qui sont devenus très cyniques, puis ils croient plus ça, là. Puis c'est pourtant ça la seule... Ça ne peut être que ça, Paul, la raison, parce que j'avais du fun. Je venais de signer le plus beau contrat que j'ai jamais eu. C'est pas compliqué. Bon...
J'étais heureux, j'avais
une super équipe, puis Cogeco, honnêtement, là, c'est le fun de travailler à Cogeco. Fait que je suis peut-être un peu fou, ça se peut, tu sais, mais
opportuniste, a-t-on dit de toi hier.
Oh, écoute, sont-tu assez drôles, les autres? Opportuniste, pourquoi? Pour se remettre dans la marde? T'sais, opportuniste pour faire face au peloton d'exécution comme hier, tu comprends? Ben non. La raison pour laquelle tu le fais par conviction.
Okay.
Tu le fais parce que tu veux. J'aime le Québec, c'est tout. Puis je veux faire ma part. C'est tout.
Il y en a pas l'autre question, à l'envers cette fois-là,
oui.
C'est, moi, je m'appelle François Legault, puis je suis avec Martin Koskinen, puis on regarde les sondages, là, puis on caracole. Là. On est en avance, puis tu es loin derrière le Parti libéral absent chez les Franco. PQ est pratiquement disparu. Il y a Québec solidaire, mais on sait que ça n'arrivera pas. Pourquoi j'ai besoin de Bernard Drainville? Pourquoi le chat... Tout va bien, là. Je suis pas en train de perdre, là. J'ai pas besoin de... Hey! Ça roule. Pourquoi je vais chercher Bernard Drainville?
Mais tu peux-tu croire, puis là, je vais te faire une confidence, mais tu peux-tu croire que j'ai posé cette question-là?
Et qu'est-ce qu'on t'a répondu?
Ben, on me dit ton expérience, essentiellement. Ton expérience, puis t'as traversé des gros débats, puis on a besoin de tu sais, on pense que tu vas être solide. En gros, c'était ça la réponse.
C'était-tu aussi une occasion de dire une dernière shot au PQ?
Je pense. Ben, on m'a pas dit ça.
Non, je pense pas qu'il te l'aurait dit, mais.
Tu sais, honnêtement, je veux pas être méchant, là, Paul, là, mais quand. Puis ça, je te l'ai dit en chronique politique, là. Quand le PQ a décidé de tout miser sur l'indépendance après la défaite de 2018, moi, je pense qu'ils ont commis une erreur stratégique. Je l'ai dit, puis je le pense encore. Tu regardes les chiffres, maudit, puis tu sais bien que les Québécois, ils en veulent de moins en moins. Pourquoi tu décides de tout miser le parti là-dessus? J'ai jamais compris cette décision-là.
Tu sais que, en tout cas, si la tendance se maintient, il va y avoir beaucoup de députés. Puis là, il arrive des candidatures comme la tienne, puis Caroline Saint-Hilaire, puis d'autres là, qui ont été annoncés, Mme Bélanger, puis l'ancienne mairesse de Sainte-Julie. À la CAQ, ils vont dire à un moment donné, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher tout ce monde-là? Ça fait 4 ans que je sers, là, Youri Chassin et puis d'autres qui attendent, là, qui espèrent juste pouvoir entrer au Conseil des ministres puis qui vont être devancés peut-être au fil d'Harvey. Penses-tu que ça crée des tensions? Êtes-vous tous, là, pas juste toi, les bienvenus? Sentez-vous la grande chaleur de la famille caquiste?
Ben, mais moi... Tu vas me dire, il y a juste ceux qui sont contents qui t'ont appelé. Là.
Ça, c'est sûr.
Peut-être qu'il y en a peut-être qui ne sont pas. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'appels positifs, puis de textos, puis beaucoup de ministres et puis beaucoup de députés aussi. Puis, je prétendrai pas qu'ils sont tous heureux, mais il y en a beaucoup. Il y en a quand même pas mal qui ont l'air heureux, là, puis qui me l'ont dit, puis je les crois sincères. Il y en a, tu sais, c'est des anciens collègues. J'ai siégé avec eux comme député avant. Tu sais, je vais te donner un exemple. Sébastien Sniberger, là, Drummond Boisfranc, lui, on est rentré en même temps au Parlement en 2007. Lui, il est rentré avec l'ADQ de Mario Dumont, puis moi avec le PQ. Ben, Sébastien, on s'est toujours respecté, puis on est devenus des amis. Alors, Sébastien, ça fait partie de ces députés avec lesquels j'avais tissé des liens, puis les liens sont encore là. Fait que j'ai quand même gardé des... Tiens, un gars comme Éric Kerr, on a rentré ensemble au Parlement en 2007, puis on était tous les deux porte-parole en santé. Okay. Il y a déjà, je dirais, un lien d'amitié qui existe entre Éric Kerr et moi. Benoît Charrette, on a siégé ensemble, tout ça. Alors, j'ai quand même des liens avec plusieurs d'entre eux, puis je pense qu'il y en a d'autres qui pensent sincèrement que je peux être un plus.
Okay. Dernière question, parce que le temps file. Un jour, tu as voulu être chef de ton parti, le Parti québécois. Tu voulais donc être le premier ministre du Québec. Est-ce que tu souhaites encore être chef, puis un jour peut-être premier ministre?
Non.
Non?
J'ai donné dans la course au leadership, Paul. Regarde, on va les prendre un à la fois, là. Moi, je vais d'abord me faire élire dans Lévis. On va travailler pour ça. Et puis, tu sais que, c'est le château fort, la région forte du Parti conservateur, de Éric Duhaime. Fait qu'il me fera pas de cadeau, Éric, dans Lévis, là. Moi, il va falloir je me batte, là. Puis, j'ai pas l'intention de perdre, là. J'ai jamais perdu une élection, puis j'ai pas l'intention de commencer. Okay. Fait que je vais travailler fort là-dessus. Puis, après ça, je vais faire mon 4 ans. Et je vais les prendre un mandat à la fois.
Merci, Bernard. Bonne journée.
Paul, merci.
Au revoir. Bernard Drinville, le nouveau candidat de la CAQ dans la circonscription de Lévis.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Bon, ici, on vient de jaser avec Bernard Drinville suite à sa candidature, qui dit qu'il est devenu nationaliste. C'est comme si le mot souverainiste était comme banni du vocabulaire maintenant. Et on voit au Parti québécois, je dirais, autour de tout ça, mais pas que de la candidature de Bernard Drinville, pas mal de brouhaha sorti de Lucien Bouchard, sorti de la sœur de René Lévesque. Je fais le point avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de questions pour vous ce matin. Toute la saga de Lucien Bouchard, Jean-François Lisée qui écrit ce matin dans Le Devoir, que M. Bouchard est un anti-péquiste qui n'est pas capable d'intervenir puis qu'il ne l'a jamais fait pour soutenir les chefs, soutenir le parti. Comment vous interprétez, c'est quoi votre lecture à vous actuellement de ce qui se passe avec les péquistes actuels puis les anciens péquistes?
Bien, je dirais que dans le cadre du centième de René Lévesque, c'est pour le moins surprenant que le discours du porte-parole soit partisan, donc commente le Parti québécois, favorise le Parti libéral et décourage la population de tenir une consultation sur l'indépendance. Une fois que ça s'est fait comme constat, dans l'espace public, évidemment, ça va générer des débats et ce sera aux organisateurs du centième là, d'ajuster, de corriger le tir. Moi, je réitère que j'ai un désaccord avec Lucien Bouchard, à savoir que, de mon point de vue, on fait beaucoup mieux d'être honnête, transparent et de mettre de l'avant notre option, qui est l'indépendance du Québec, que de la cacher. Et pour autant, M. Bouchard a droit à son opinion.
Est-ce que je comprends, là, j'ai entendu les mordus hier, là, que vous n'êtes pas invité à prendre la parole au lancement officiel de l'année René Lévesque, que M. Bouchard, lui, va faire un discours, et le premier ministre Legault également. Vous, non.
Exact.
Comment ça se fait? Vous êtes le chef actuel du parti?
Oui, il faut poser la question aux organisateurs. J'espère qu'on ne dénaturera pas la pensée et la carrière de René Lévesque au point d'évacuer le fait qu'il était indépendantiste et qu'il était le chef du Parti québécois. En même temps, je ne suis pas dans l'organisation de ce centième-là. Je rappelle que pour la mémoire de Jacques Parizeau, Bernard Landry, Camille Lorrain, sous la CAQ, il y a une fâcheuse tendance à récupérer un peu l'œuvre de gens qui ont consacré leur vie à l'indépendance et au Parti québécois, sans mentionner qu'ils étaient péquistes, qu'ils étaient indépendantistes. Donc, il y a tout ça qui se passe, mais en même temps, je ne suis pas dans le comité organisateur. Moi, je suis là pour porter les idées de René Lévesque, de Jacques Parizeau, à savoir que le Québec doit être un pays. Et c'est ce que je fais à temps plein. Le reste, je ne le contrôle pas.
Mais comment vous considérez l'absence d'invitation? Je comprends que c'est leur responsabilité, mais vous recevez ça comment?
Je leur laisse le soin d'y réfléchir, dans le sens que il n'est pas trop tard pour donner une place raisonnable au fait que René Lévesque a passé sa vie à faire la promotion de l'indépendance et a été le chef fondateur du Parti québécois.
Serez-vous, même si vous n'êtes pas invité à prendre la parole, présent à l'événement?
Dans l'état actuel des choses, je ne suis pas certain d'être présent à l'événement parce que s'ajoute à l'absence, l'évacuation du Parti québécois, s'ajoute les propos de M. Bouchard que je viens de commenter. Mm-hmm. Je pense que c'est triste un peu que la mémoire de René Lévesque et surtout toutes les années qu'il a données à la cause de l'indépendance là, soit brouillée par la séquence d'événements qu'on vient de voir. Donc, je ne veux pas en rajouter. Je pense que faut garder en tête que la mission en ce moment, ce serait d'honorer le mieux possible René Lévesque.
Ça arrive dans un contexte quand même très particulier, puis ça rappelle, disons, les chicanes presque historiques au sein du parti, des chicanes qui ont été dures, des députés qui ont quitté, des ministres qui ont quitté, comme on dit, du lavage de linge sale sur la place publique. Là, vous avez Bernard Drainville qui a été un indépendantiste, qui on ne sait pas s'il l'est encore parce qu'il dit qu'il est nationaliste maintenant. C'est typiquement PQ ce qui se passe cette semaine.
Non, je ne qualifierais pas de chicane, puis je trouve pas que c'est malsain. On est dans une époque politique où une grande partie de nos élites politiques nous disent que l'indépendance c'est terminé. En même temps, l'actualité nous rappelle sans arrêt. Écoutez, la semaine dernière, le premier ministre disait que c'était une question de survie pour la nation, puis il s'est fait dire non par Justin Trudeau en 48 heures. On voit un déclin de la langue française et de la culture québécoise. Donc, c'est pas surprenant qu'il y ait ces débats de fond-là, à savoir, est-ce que l'indépendance est nécessaire ou est-ce que c'est un rêve diffus, ludique, qu'on pourrait peut-être ramener dans 30 ans? C'est un débat qui est nécessaire parce que la CAQ nous invite constamment au défaitisme. Évidemment, Bernard Drainville va dire nationaliste, là, mais quand on écoute son discours, c'est celui du Parti libéral du Québec, où est-ce qu'il dit c'est dépassé, ce n'est plus d'actualité. Or, c'est faux. C'est tout le temps dans l'actualité. Donc, c'est pas malsain, puis c'est pas une chicane. C'est pas malsain qu'on ait un débat à savoir est-ce que l'indépendance du Québec, elle est nécessaire? Et si la réponse est oui, bien, ça prend un véhicule pour le porter en toute honnêteté, et ce sera le Parti québécois.
Si je vous comprends, là, ce que vous me dites, puis vous dites à mes auditeurs ce matin, même si c'est pas tendance, là, même si c'est pas la saveur du mois, je vais parler d'indépendance, je vais parler de souveraineté pendant la campagne électorale, et il n'est pas question de cacher l'option, c'est ça?
Exactement. Papineau disait « Fais ce que doit, advienne que pourra ». René Lévesque disait que c'est le rôle d'un démocrate que d'éclairer la population sur les intérêts nationaux. Je pense que nous, on dit la vérité, puis ce qui se passe quand un Bernard Drainville se lance en politique et renie ses convictions, n'est pas capable de les nommer, bien, ça crée une ligne de démarcation claire, c'est-à-dire il y a ceux qui sont pas fiers de leurs convictions, ceux qui ont d'une certaine manière honte d'être indépendantistes, puis il y a les autres qui sont fiers de leur projet et qui sont honnêtes avec la population en disant « nous, c'est ça ». Puis on a de bonnes raisons de croire que c'est non seulement nécessaire de créer un pays, mais c'est urgent. Donc, ceux qui sont fiers d'être indépendantistes, bien, venez avec nous. Puis ceux qui sont résignés puis qui ne veulent plus nommer le mot en S, parce que là, on pourrait quasiment appeler ça le mot en S, tellement qu'à la CAQ, on a peur de nommer souveraineté, bien, eux, ils iront du côté de la CAQ. Mais je trouve que ça crée une délimitation très claire entre les deux parties.
Merci. Bonne journée à vous.
Au
revoir. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Je veux vous parler maintenant de ce sondage concernant le gaspillage alimentaire. On a beaucoup de questions, évidemment, compte tenu de ce contexte où la facture d'épicerie grimpe. On le voit, le taux d'inflation qui est élevé, les gens qui en arrachent, les marques maison qui, paraît-il, deviennent un peu plus populaires. Mais malgré tout, 51% des gens disent dans un sondage « jeter des aliments ». Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu de vue dans le frigo, dans le garde-manger, sur le comptoir, il y a des dates de péremption qui sont dépassés depuis longtemps, puis là, on retrouve le produit en question. Puis en même temps, là, il y a cette volonté de dire « Non, je ne veux pas gaspiller ». Michel Rochette est président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec. Monsieur Rochette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Quand vous regardez les résultats du sondage, d'abord, 51% de gens qui gaspillent, on peut être à la fois surpris, par même temps, peut-être pas tant que ça.
Oui, ben c'est un peu la question qu'on se demandait. D'une part, on a fait faire ce sondage-là en vue d'un événement qu'on tient la semaine prochaine où les transformateurs, les producteurs, les détaillants d'alimentation se réunissent pour voir de quelle façon ils peuvent faire des gestes pour améliorer l'environnement, diminuer l'empreinte environnementale. Puis parmi les éléments évidemment les plus discutés, c'est le gaspillage alimentaire, parce que ça nous concerne tous. Puis comme vous dites, vu la hausse du coût des aliments, l'inflation et tous les toute la pression sur les chaînes d'approvisionnement, c'est le moment idéal, à mon avis, pour pouvoir sensibiliser de plus à la fois tous les acteurs de la chaîne, et y compris les gens chez eux. Chacun de nous, on fait tous des mauvais choix dans nos aliments. On oublie des aliments, on laisse des restants de nourriture à manger. On fait des recettes, puis il nous reste des morceaux d'ingrédients qu'on n'utilise pas. Donc, on fait tous partie à la fois du problème et de la solution. Et c'est l'ambition qu'on souhaitait faire là, avec la tenue de l'événement et le sondage qui va nous permettre de donner un peu plus de données pour pouvoir travailler sur les solutions.
Est-ce que c'est l'augmentation des prix, la réponse? C'est-à-dire, plus ça coûte cher, plus on a tendance, en tout cas, pensons-nous, à faire attention pour ne pas gaspiller?
Bien, le sondage l'a démontré. Alors, il y a près de 70 et 80 des gens qui confirment qu'ils vont changer à la lumière du contexte actuel, qu'ils vont changer leurs habitudes de consommation. Puis dans les premiers gestes qu'ils vont poser, bien, c'est de faire davantage attention au gaspillage, de poser davantage les yeux sur les dates d'expiration, d'être un peu plus ouvert d'ailleurs sur toutes les opportunités qu'on a d'utiliser des aliments qu'on n'a pas encore complètement utilisés à la maison. Il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'initiatives au Québec pour encourager les restaurants, les épiciers, tous ceux qui vendent des aliments, mais il reste encore un petit geste de sensibilisation auprès de la population.
Bon, il y a évidemment le gaspillage comme tel, mais j'imagine que si votre événement là, porte sur des questions environnementales, il y a la question du suremballage. Encore, j'ai vu ça en fin de semaine, je suis un peu sidéré de voir à quel point des produits sont emballés, suremballés, trois concombres. À un moment donné, c'est comme trop, ça n'a plus de bon sens.
Oui, il y avait avant la pandémie, il y avait déjà plusieurs initiatives, vous le savez, là, qui avaient été mises en place par des épiciers qui permettaient aux gens d'apporter leurs propres contenants. Ouais. Évidemment, tout ça a été mis sur la glace pendant la pandémie. Mais on a un panel qui porte justement sur la question d'emballage. Écotourisme Québec, d'ailleurs, collabore à ce panel. Il y a des initiatives qui sont prises, des nouveaux types d'emballage, puis évidemment toute la question du vrac également qui se pose, mais toujours dans une dynamique qui nous oblige à considérer ce qui est arrivé pendant la pandémie. Il faut garder en tête la question sanitaire dans tout ça, mais on va travailler notamment sur les emballages, oui.
Mais je regarde, là, quand vous dites on va travailler, là, est-ce qu'il y a des plans concrets, des mesures qui s'en viennent pour justement arrêter de gaspiller dans des contenants, dans l'utilisation de pellicules pour emballer des trucs qui sont pas nécessairement là, ou c'est pas nécessairement requis?
Bien, en fait, oui. Puis là-dessus, je vous avoue que tous les acteurs de l'industrie sont assez sensibilisés. Les grandes bannières d'alimentation, notamment, ont beaucoup d'initiatives et beaucoup d'équipes internes de recherche sur de quelle façon on peut diminuer la portée des emballages, c'est-à-dire toujours comment s'assurer à la fois de respecter le produit lui-même et comment on peut diminuer le volume et le nombre d'éléments dans l'équation. Vous savez, par exemple, les aides d'épicerie, il n'y en a pratiquement plus en plastique maintenant. C'était déjà un geste important qui avait été d'ailleurs demandé par les détaillants. Maintenant, sur les types de recyclage possibles pour les types d'emballage, là aussi, il y a des efforts qui sont faits par tous les maillons de la chaîne dans cet univers-là. Mais on a justement des gens, des spécialistes qui viennent nous parler des les plus récentes innovations et des gestes que certains épiciers ont commencé à poser ou devraient poser pour diminuer le nombre d'emballages. Et évidemment, ça, le gaspillage alimentaire, toutes les innovations, ça fait partie de tous les enjeux qui vont être discutés le 13 prochain. Puis on a beaucoup d'initiatives, notamment des organisations comme la Transformerie, la Distillerie Norrois, qui sont des entreprises privées québécoises qui se spécialisent dans les façons de diminuer notre empreinte environnementale et qui vont venir nous présenter leur geste.
Mais je vous donne l'exemple de la France, de l'Italie. Hier, par exemple, on annonçait que le gouvernement espagnol a présenté un projet de loi pour contrer le gaspillage alimentaire qui prévoit des amendes contre les restaurants et les supermarchés qui jettent de la nourriture.
Ouais.
On a-tu besoin de ça?
J'ai lu, puis essentiellement, ce que l'Espagne demande, c'est qu'il y a des initiatives, donc des démarches que les épiciers, les supermarchés et les restaurants mettent en place. Or, ces initiatives-là, il y en existe déjà au Québec. Il y a, par exemple, un des programmes qui est le plus connu par les supermarchés, c'est le programme de récupération supermarché qui est encadré par la Banque alimentaire Québec, qui est en lien avec toutes les banques alimentaires Moisson Montréal et les autres moissons à travers le Québec. Donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'initiatives. Le gouvernement du Québec avait chiffré en mars dernier 160 initiatives au Québec de récupération d'aliments dans tous les types de secteurs, de restaurants, épiciers.
Mais on en jette encore quand même, là.
Oui, tout à fait. Puis ça va de différentes façons. C'est-à-dire qu'il y a différentes approches. Est-ce que d'ailleurs, dans nos habitudes de consommation nous-mêmes à la maison, est-ce qu'on achète des fois un peu trop d'aliments, des fois par rapport à des recettes ou quand on achète en grande quantité parce qu'il y a un rabais, Des fois, nous-mêmes, on a une question de conscience à se demander. Un des maillons de la chaîne qui manque le plus pour s'assurer qu'il y ait le moins de pertes possibles, ça demeure quand même la pénurie d'emploi. Parce que toutes ces initiatives-là de récupération et de collecte de produits qui sont invendus dans les épiceries, dans les restaurants, ça prend des bras, ça prend des camions, ça prend des endroits réfrigérés. Mais le premier élément, ça prend des gens pour les gérer. Puis ça fait partie malheureusement des mauvaises conséquences de la pénurie de main-d'œuvre.
Merci, M. Rochette. Au revoir. Bonne journée.
Merci, M. Arcand.
Michel Rochette est le président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec. Parlons du réseau de la santé. Si je vous dis pénurie de main-d'œuvre, personnel épuisé, urgence qui déborde, difficile d'avoir accès à un médecin de première ligne, ce qu'on appelle des médecins de famille, du temps supplémentaire obligatoire, des patients qui passent trop de temps sur civière dans les corridors, des patients qui ne sont pas hospitalisés. Vous allez me dire que je suis en train de décrire le Québec. Évidemment. Mais en France, on vit aussi une crise majeure dans le réseau de la santé depuis des mois. C'est l'objet d'un débat. Hier, il y a eu manifestation et des situations qu'on retrouve beaucoup l'été parce que le personnel est en vacances et qu'il y a, disons, une pression additionnelle. C'est déjà commencé. Patrick Pelloux est avec nous. Il est urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France. Docteur Pelloux, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, dites-moi, si vous aviez à me décrire la situation en France actuellement dans le système public de santé, qu'est-ce que vous pourriez me dire?
Bon, c'est une crise majeure que vous venez de très bien décrire, c'est-à-dire qu'on a à la fois des problèmes de ressources humaines, puisqu'on n'a plus d'infirmières qui veulent travailler. En moyenne, les infirmières, quand elles ont leur diplôme, elles arrêtent de travailler au bout de 7 ans. On a une pénurie de médecins, ce qui fait que la France vient de recruter 10 000 médecins algériens pour venir les faire travailler en France dans les hôpitaux publics, ce qui fait que vous avez une crise diplomatique avec l'Algérie, parce que l'Algérie est en train de dire qu'on leur vole leurs médecins. On est dans une situation épouvantable, avec tous les jours maintenant dans la presse des faits divers, avec des retards de prise en charge, des retards de soins, et les gens se plaignent. Encore ce matin, vous avez une dame qui s'est plainte parce qu'elle n'a pas trouvé de médecin pour faire un certificat de décès pendant 48 heures. Donc, la France est complètement coulée sur son système de santé. Et je ne vous raconte même pas les problèmes de prise en charge de malades chroniques qui ne trouvent pas de structure ou de filière pour être pris en charge de leur cancer. On est dans une crise absolument majeure en France.
Est-ce que je comprends que c'est dès le début, j'allais dire, de la chaîne, c'est-à-dire la difficulté d'avoir un rendez-vous avec ce qu'on appelle au Québec un médecin de famille, médecin de première ligne, des gens qui, donc, pas de rendez-vous, vont avoir des complications, se retrouvent à l'urgence, qui déjà débordent, c'est comme une espèce d'effet domino, tout ça?
Ah, c'est complètement ça. C'est-à-dire que tout s'est cassé la figure d'une manière folle. Ça remonte au milieu des années 90, en fait, quand, y compris le Québec, parce que je me souviens, j'étais venu au premier congrès international de médecine d'urgence qui avait eu lieu à Montréal, et j'avais rencontré le docteur Vat Bonker, qui était urgentologue à Montréal. Et à l'époque, vous aviez eu cette oppression financière de la part des États-Unis sur votre système de santé. Bon, bah là, en France, c'est la même chose. On a eu ça en 95, et en fait, on s'en est jamais remis. Et ça, c'est là où ils ont arrêté de former des médecins, arrêté de former des infirmières, avec un dogme économique qui était « moins il y a de soignants, moins on dépensera pour le système de santé ». Ce qui est totalement faux, mais... C'est resté. Et donc là, nous avons un gouvernement, alors nous avons un président de la République qui vient d'être élu à nouveau, et dont le seul but, c'est en fait que la santé se transforme en e-santé. C'est-à-dire, vous savez, c'est tout le concept de vous soigner avec des applications, des algorithmes, un téléphone portable, vous téléphonez à des plateformes de régulation, et comme ça, on vous soigne. Voilà, c'est un monde épouvantable, en fait.
Est-ce qu'il existe en France des partenariats avec d'autres professionnels de la santé? J'ai peut-être pas besoin de voir un médecin, mais je peux voir une infirmière qui a une expérience, je peux voir un autre type de professionnel, un pharmacien. Est-ce que c'est possible de faire ça en France?
Oui, oui, ils ont fait ça, et notamment ça a pris des formes très variables avec la crise du Covid, par exemple. Avant, c'était que les médecins qui pouvaient vacciner. Maintenant, en fait, l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit le pharmacien, l'infirmière, tout le monde peut vacciner. Vous voyez, vous avez cette évolution là. Ça, c'est oui, ça, on a ça maintenant.
Et là,
il est question de supprimer la particularité française qui était de mettre des médecins dans les ambulances que vous avez à Montréal et au Québec, des paramédics. Et ben en France, en fait, on est en train d'enlever maintenant les médecins dans les ambulances. Moi, je le regrette, mais on est en train de les enlever pour mettre des paramédics.
Est-ce que ça veut dire, selon vous, que on comprend qu'il y a des établissements qui n'accueillent que des cas là, extrêmement urgents où la vie est menacée, mais que la difficulté d'avoir donc un rendez-vous, la difficulté d'avoir accès à des professionnels fait en sorte qu'il y a des diagnostics qui arrivent trop tard et que des gens vont en payer le prix, que le traitement sera pas possible pour ces patients-là?
Ben, c'est une certitude et c'est même pire que ça parce que en fait, ce qui est en train de se préparer, c'est une médecine où quand vous aurez de l'argent, ben, vous verrez un médecin. Et quand vous n'aurez pas d'argent, vous verrez un système autre, que ce soit un infirmier spécialisé ou pas, ou un simple secouriste, etc. Donc du coup, vous avez une fracture médicale et sociale qui est en train de se construire en France et qui est établie maintenant. On ne pourra pas faire marche arrière. C'est comme ça. On est en train, si vous voulez, quand vous parlez, ce que vous évoquez est juste. Vous avez toujours l'exemple de la France et de la particularité française. En fait, c'est réellement en train de disparaître.
Docteur Pelloux, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Patrick Pelloux est urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France. Si vous faites une brève et rapide recherche sur le web, vous allez découvrir des articles qui, il y a bien sûr là, des particularités, mais beaucoup de similitudes. Je vous dirais la fatigue accumulée du personnel soignant, des infirmières, infirmiers, les gens de première ligne, là, les urgences qui débordent, les patients qu'on n'est pas capable de monter, des salles d'urgence qui ferment après 17 heures, des quarts avec du temps supplémentaire obligatoire. C'est assez comparable avec ce qu'on voit ici. Là. Je comprends qu'il y a des choses différentes, mais je trouvais ça important de faire entendre cette réalité qui, disons, résonne beaucoup en France actuellement.
L'essentiel de Paul Arcand.
Ben, on va parler d'hockey parce que les séries éliminatoires continuent, évidemment, et ça se corse entre New York et le Lightning.
Oui, les Rangers ont ouvert la porte dimanche. Ils avaient une avance de 2-0 dans le match, 2-0 dans la série, ont permis au Lightning de revenir pour l'emporter. Et là, hier, ça a été une victoire beaucoup plus convaincante, 4-1. Le Lightning qui ressemblait davantage à l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley, ce qui fait que la finale de l'Est est maintenant à égalité, 2 victoires de chaque côté. On se transporte du côté de Madison Square Garden jeudi pour le match numéro 5. Et probablement que le doute s'est sérieusement installé dans la tête des joueurs des Rangers. Je vous rappelle que le gagnant de cette série va affronter l'Avalanche du Colorado qui a accédé à la finale plus tôt cette semaine en éliminant les Oilers d'Edmonton en 4 matchs. Et plus près de nous, la nouvelle, évidemment, c'est l'embauche de Marie-Philippe Poulin comme consultante au développement des joueurs chez le Canadien de Montréal. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'accueille ce matin. Marie-Philippe Poulin, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. On a beaucoup vanté vos qualités, avec raison, hier. Mais si je vous demandais, vous, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter aux jeunes joueurs de l'organisation du Canadien?
Pour moi, c'est
pour être honnête, ça va être peut-être l'expérience. Je suis passionnée avec le hockey et tout, mais je pense qu'à la fin de la journée, ça va être les petits détails. Je pense que dans ma game, j'apporte ça beaucoup. Alors, de pouvoir peut-être partager ça avec les nouvelles recrues, que ce soit des petits skills sur le côté qui, peut-être, à la fin de la journée, ça paraît pas gros, mais dans des grosses situations, on peut faire une grande différence. Alors, je pense que c'est des petits détails à la fin de la journée que je pense que je peux apporter.
Pourriez-vous me donner un exemple de ça? Mettons qu'Alain est une jeune recrue qui arrive comme ça au camp d'entraînement. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme petit conseil, là, la petite chose qui peut faire la différence?
Elle dirait change de sport.
Mais là, monsieur Crête, ça sera tout enlever la rondelle, la protection de rondelle, juste le back check, de pouvoir lever le bâton, repartir de l'autre bord pour repartir le jeu de l'autre côté. Je pense que ça peut vraiment faire de la différence.
Vous avez indiqué qu'il n'était pas question d'arrêter votre carrière de joueuse immédiatement. Comment vous allez concilier les deux, là, l'emploi avec le Canadien et votre carrière de joueuse qui va vous demander là, de jouer des tournois, des matchs sur la scène internationale. Comment vous allez répartir votre calendrier durant l'année, là?
Oui, tout de suite, ça va être occupé. Je pense que pour moi, j'avais mis au clair quand j'ai commencé à parler avec le Canadien que pour moi, la priorité, j'ai continué à jouer. Puis il était très conscient de ça. Puis tu sais, il m'a encouragé là-dedans. Alors juste de placer mon horaire, c'est sûr que ça va être plus virtuel. Il va y avoir des rencontres sur Zoom aussi avec le travail que je dois faire en tant que au développement au joueur. Mais vraiment de m'assurer avec Adam Nicklaus puis aller de l'avant, savoir comment on va fonctionner puis pour aider les nouvelles recrues.
Justement, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Rob Ramage et Adam Nicklaus, là, qui sont les patrons du développement chez le Canadien?
Je ne l'ai pas encore rencontré, mais on s'est échangé quelques messages hier, puis vraiment excité de voir commencer à avoir une rencontre sur Zoom dans les prochaines journées.
Habituellement, le Canadien tient un camp là, en juillet où on retrouve les joueurs qui ont été sélectionnés au repêchage, les meilleurs espoirs de l'organisation. J'imagine que vous allez être là à ce moment-là, ça, à Brossard?
Oui, j'ai passé du temps là-bas à pouvoir rencontrer les nouvelles recrues et vraiment connecter à savoir où commencer avec eux.
Quand vous êtes engagé là, dans un nouveau cycle olympique avec l'équipe canadienne, on sait que l'année qui précède les Jeux est une année très occupée. Est-ce que vous allez pouvoir là, consacrer autant de temps à l'organisation du Canadien à ce moment-là?
Oui, je pense que ça, c'est tout que pour moi, ça va être à temps partiel pour l'instant. Et vraiment, aller de l'avant, mettre une horaire en place pour moi, ça, être sûr que je fais le travail. Puis, tu sais, que ce soit que je vais sur la glace ou soit sur virtuel. Je pense qu'avec l'équipe Canada, il va y avoir des camps. On est tous conscients de ça. Mais, tu sais, de savoir mettre ça en place et avoir une belle routine à travers tout ça.
Vous êtes capitaine de l'équipe canadienne. On a beaucoup vanté votre leadership. Vous êtes également une joueuse qui performe toujours sous la pression. Vous êtes peut-être à votre meilleur là, quand l'enjeu est grand. Est-ce que ce sont des choses qui s'enseignent, ça?
Je sais pas si ça s'enseigne concrètement, mais je pense que de pouvoir connecter avec les joueurs, de savoir comment ils se sentent dans les moments les plus humbles, les plus gros. Mais pour moi, c'est vraiment avec le processus, avec la préparation. Je pense que c'est tellement important. Je pense qu'on sait tous que les nouvelles recrues qui arrivent, ils ont tellement de talent, ils ont beaucoup de skills, mais je pense que des fois, on est impatient un petit peu, on va se rendre au prochain niveau. On veut vraiment atteindre notre but tout de suite. Mais je pense que prendre un pas de recul, que la préparation, c'est super important, puis le processus, je pense que mettre tout ça en place, c'est vraiment aider. Mais tu sais, je sais pas si ça s'enseigne concrètement, mais je pense que de pouvoir se préparer pour ces gros moments-là peut faire une différence.
Dans votre processus de négociation avec le Canadien, est-ce que vous vous êtes demandé s'il n'y avait pas un aspect marketing également à votre embauche, là?
Je pense que tout le monde parle ça, mais je pense que quand je me suis assis, c'était vraiment, j'ai senti... La confiance, j'ai senti que j'étais là pour la bonne raison, pour ma connaissance envers le hockey. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment reconnaissante. Puis j'ai mis ça au clair que c'était pas ça que je voulais non plus. Puis ils savaient exactement qu'est-ce que je voulais dire. Puis donc je suis reconnaissante qu'ils me donnent la chance pour ma connaissance envers le hockey.
Ben Marie-Philippe Poulin, bravo, félicitations et puis la meilleure des chances avec le Canadien et comme joueuse également.
Oups. Merci beaucoup, c'est super apprécié.
Je saluerai votre chien aussi.
Ah, parfait, merci.
Bye. Bye. Bon, alors voilà, quand même intéressant tout ça.
C'est 23.